Bien, bonjour à tous. J'aimerais d'abord remercier Georges Callas de m'avoir invité à présenter cet exposé dans le cadre de son cours. J'espère que l'on va faire quelque chose d'assez complémentaire. Vous allez y retrouver un certain nombre de notions qu'il a pu présenter, mais on va peut-être regarder l'aspect effectivement plus pratique. Donc, je suis directeur scientifique de l'INERIS. L'INERIS, c'est l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, qui est l'héritier, donc créé en 1991, du Centre de recherche des charbonnages de France, qui avait été créé dans un passé assez lointain, en particulier pour regarder, pour s'intéresser aux risques liés aux activités minières, que ce soit la silicose, dont il a été question, mais aussi les risques d'explosion, en particulier la grande catastrophe de Courrières en 1906, qui a fait plus de 1000 morts, et qui a décidé les charbonnages de France à mettre en place une structure dédiée à l'étude des risques. Donc depuis le panel d'activités de l'INERIS s'est enrichi. Ce n'est pas simplement le risque lié aux mines, mais c'est le risque lié à l'ensemble des activités industrielles, aussi bien le risque sanitaire et environnemental que le risque d'explosion, d'incendie, ou évidemment le risque lié à la présence de cavités, que ce soit des stockages ou des mines. Donc pourquoi s'intéresser de nouveau à ces questions de risque lié aux activités minières? Bien sûr, l'après-mine, c'est quelque chose qui nous concerne, et je vais en reparler. Mais c'est aussi le renouveau d'intérêt qui motive d'ailleurs la création de la chaire spécifique pour Georges Callas, le renouveau d'intérêt lié aux ressources minérales stratégiques, lié aux augmentations des coûts et à la pénurie, avec un point focal sur les métaux stratégiques, dans un souci de limiter la dépendance nationale et européenne en matière d'approvisionnement de ces métaux ou minéraux stratégiques, avec, au niveau européen comme au niveau français, la mise en priorité de ces thématiques depuis quelques années dans les politiques publiques ou dans les politiques industrielles. La création du COMES, donc le Comité pour les métaux stratégiques en 2011, une politique du renouveau minier qui a été mise en place, un rapport du Commissariat général à la stratégie et à la prospective, la mise en place d'un comité stratégique de filière en 2014, et plus récemment au niveau européen, la création dans le cadre de l'EIT, qui est l'Institut européen des technologies, d'une communauté de la connaissance sur les matériaux et les ressources stratégiques, qui émane d'une plateforme technologique qui s'appelle SMR, donc Sustainable Mineral Resources, qui s'intéresse à l'exploitation par différentes techniques, que ce soit en recyclage ou par des ressources primaires, de manière durable, donc sustainable, des ressources minérales. Et plus récemment, donc, tous les débats et orientations en termes de loi sur l'économie circulaire, dans le cadre de la loi sur la transition énergétique, qui donne un écho à ces préoccupations. Comme Georges Callas nous l'a montré, on ne peut néanmoins plus rester sur les approches passées. Les exigences environnementales et sanitaires sont bien plus importantes qu'autrefois. Et puis les exigences sociétales, de concertation, de développement économique ont aussi énormément changé la manière de gérer le développement de ces activités. Alors ici, un schéma, je ne vais pas rentrer sur ce détail, mais un schéma issu d'un rapport du World Economic Forum qui montre tous les différents changements de paradigme, que ce soit sur la concertation, les aspects économiques, les différences entre pays, l'augmentation des échanges. Donc vous avez tout un tas de facteurs qui font que petit à petit, les nécessités d'exploiter correctement les ressources dont on a toujours de plus en plus besoin, mais de les exploiter de manière soutenable, de manière durable, devient une nécessité sur laquelle l'ensemble des pays doivent se pencher. Donc avec des voies, comme cela a déjà été évoqué à plusieurs reprises au cours de ces exposés, donc le recyclage dans le cadre d'une économie circulaire et de la valorisation des déchets, notamment le réemploi de ces déchets, mais aussi la relance de l'exploitation minière, soit à partir de nouvelles ressources, notamment des ressources profondes, soit en valorisant des stériles, les fameux terrils que nous a montré Georges Callas, ou les haldes, qui est en jargon minier, ce qui revient à peu près au même, mais en appliquant de nouvelles approches, que ce soit de gestion, de réglementation, mais aussi des aspects de technologies très innovantes à développer pour éviter de contaminer, de polluer, ou exploiter de manière plus rationnelle, et bien sûr encore des défis scientifiques. Alors je vais passer très rapidement sur ces diagrammes qui représentent pour un certain nombre de métaux stratégiques ou de matériaux stratégiques l'importance économique et le risque lié à l'approvisionnement. Et donc ça met en priorité notamment les terres rares, dont il a été question à plusieurs reprises, si j'arrive à trouver un pointeur. Donc les terres rares, mais aussi des métaux comme le niobium, le tantale qui ne doit pas être très loin, bien sûr les platinoïdes, l'indium, le tungstène. Donc certains de ces métaux sont présents sur le territoire national, métropolitain, et d'autres évidemment sont absents compte tenu de notre géologie. Donc il y a des priorisations qui ont été faites, et l'on voit que on cible sur les terres rares, le tungstène, le niobium, compte tenu des tensions et des aspects géopolitiques liés à ces ressources. On voit que les principaux gisements européens, que ce soit donc de métaux stratégiques ou de différentes ressources, sont effectivement situés, comme nous l'a rappelé Georges, sur les massifs anciens. Bon, ici, on voit la Bretagne, le massif central, des zones ici, des Sudètes, du centre de l'Europe, ou bien des Carpates par ici, une partie du Royaume-Uni et puis les pays du Nord. Bien sûr, l'Espagne, notamment les provinces, soit des Pyrénées, soit des Asturies, soit de la frontière entre le Portugal et l'Espagne. Donc, dans beaucoup d'endroits, on a eu une exploitation minière, on a encore des ressources minières, mais dont certaines sont encore assez peu connues. Donc, si on fait un zoom sur le territoire métropolitain, nos collègues du BRGM, donc, qui est l'institut de référence sur les ressources minières, a ciblé 169 indices, et même plus que ces indices, des gisements qui ont été cartographiés, qui sont recensés, qui sont priorisés. Mais on a encore beaucoup d'inconnus. D'une part, certains métaux ont été peu considérés, comme le gallium, l'indium, le niobium et le tantale. Donc on connaît finalement relativement peu, sauf dans certains cas, les ressources potentielles pour ces minéraux. Et par ailleurs, les ressources profondes sont encore très mal connus. Donc on a pu explorer par forage ou à partir de travaux miniers existants un certain nombre de ressources, mais à 1500, 2000 mètres, on a peut-être des Eldorados sous nos pieds et finalement, on ne le sait pas. Il y a également les ressources offshore, donc liées à ce qui se passe sur le plancher des océans notamment et autour. Donc que ce soit les sulfures hydrothermaux ici à droite. Donc vous savez qu'au niveau des dorsales médio-océaniques, vous avez des réactions donc, qui font remonter des fluides chargés en sulfure et en métaux sur les lèvres de ces grandes fissures qui s'ouvrent sur les planchers des océans, donc avec énormément de métaux, dont certains sont stratégiques, qui se déposent ici. Ça peut être aussi des encroûtements à différents endroits, et puis ces fameux nodules polymétalliques qui sont présents dans certains secteurs du Pacifique à grande profondeur. Donc, ils sont des nodules essentiellement à base de manganèse, mais qui peuvent piéger énormément de métaux. Alors, l'exploration de ces ressources offshore profondes, c'est un autre aspect, et ce sont nos collègues de l'IFREMER qui sont principalement engagés dans les études reliées à ces ressources offshore. Moi, je n'en parlerai pas. Donc, d'une part, ces fortes tensions sur les ressources, avec la nécessité de reprendre éventuellement des activités minières, que ce soit sur le territoire métropolitain, mais aussi outre-mer, et bien sûr dans le reste du monde, et puis aussi la nécessité du recyclage. Donc on va repasser un petit peu en revue, alors vous allez revoir des choses que Georges Callas vient d'évoquer, sur l'héritage des activités minières, dont l'INERIS est entre autres chargé. Alors bien sûr, l'INERIS, en tant qu'institut de référence dépendant du ministère de l'Écologie, s'intéresse à tous les risques liés aux activités industrielles, et la mine en est un exemple. Mais on travaille avec le BRGM, on travaille aussi avec l'ADEME sur les sols pollués. Donc l'ADEME est une agence qui va financer des études sur un certain nombre de sites. Et puis l'IRSN pour ce qui va concerner l'uranium et ses différents aspects, que ce soit minier ou les impacts environnementaux. Et donc je vais distinguer un petit peu ces mines à ciel ouvert et les stériles miniers qui sont extraits des mines profondes, qui vont générer tous ces impacts que Georges nous a décrits, et puis les mines souterraines, avec les questions d'après-mine. Donc une fois qu'on a extrait, qu'on a tiré le bénéfice des substances, que ce soit du charbon, que ce soit du fer, que ce soit de métaux, eh bien, il ne reste plus que les désagréments. Et c'est pour ça que cette question est une question à la fois difficile et que l'héritage minier en France a parfois eu des conséquences dramatiques, avec des accidents, on va en revoir, ou des conséquences de pollution avec des risques environnementaux et sanitaires. Donc des impacts pendant la phase d'exploitation, des perturbations durables du paysage et des écosystèmes, des contaminations chimiques persistantes, difficiles à traiter, Donc des carrières et des mines abandonnées avec une obligation de prise en charge publique, donc ça va coûter, ça coûte de l'argent à la puissance publique. Sans parler, ça concerne moins maintenant le territoire national, mais des exploitations sauvages à fort impact environnemental. Ça concerne encore des territoires d'outre-mer ou des départements d'outre-mer comme la Guyane. Et donc sur les mines souterraines, donc vous avez les risques liés à l'exploitation, les coups de grisou, les explosions, les effondrements dans des mines, mais vous avez aussi des risques liés à ce qui va suivre l'exploitation. Subsidence, donc c'est un effondrement progressif ou des effondrements brutaux, mais aussi des perturbations hydrogéologiques et géochimiques. Même si les mines sont en profondeur, on peut avoir des perturbations qui se ressentent jusqu'en surface. Et bien sûr, des émissions de gaz, du gaz carbonique, ce n'est pas forcément le plus nocif, mais du méthane, qui peut générer des risques, notamment d'explosion, et bien sûr, de l'hydrogène sulfuré, du H2S, qui lui est toxique. Alors, on va retrouver quelques images dans le genre de celles que notre ami Georges nous a montrées. Donc, ici, donc, des grandes mines à ciel ouvert aux États-Unis, dans le Montana, qui est vraiment un peu le paradis de la mine aux États-Unis, ou bien dans l'Utah, avec cette fameuse mine de Bingham, donc, qui est un porphyricopeur, une mine de cuivre dans un apex de granit au sens large. Et ici, on voit par exemple au fond de ce fameux Berkeley Pit, dans le Montana, c'est un lac d'acide sulfurique, à peu près un centième. Évidemment, truffé de tous les métaux lourds qui proviennent des attaques acides, surtout que ce soit des stériles, que ce soit les zones encore un peu exposées de sulfure métallique. Ici, la mine de Salsing, donc, qui est en voie de stabilisation. On voit que les gradins ont été stabilisés par de la végétation, mais il subsiste encore un certain nombre de problématiques, comme l'a mentionné Georges, sur l'impact et notamment la problématique de l'arsenic au voisinage de celle-ci. Et si on voit l'altération de ces résidus miniers, vous voyez les zones qui sont grises ici, c'est la fameuse pyrite, le sulfure de fer que Georges Callas a évoqué. Donc ça, c'est les parties, donc c'est une coupe. Hein. Les parties un peu plus profondes sont moins exposées au lessivage par l'eau. Et on voit aussi les zones rouges, orangées, c'est le développement de l'oxydation avec la précipitation d'oxyde de fer. Et cette altération des résidus miniers, je m'excuse de ça, mais en fait, j'ai exhumé mes cours de géochimie il y a bientôt 40 ans. Je suivais ici, à Paris, mes premiers cours de géochimie. C'était le professeur Faucher, géochimie systématique, et qui m'a appris l'essentiel de ce que je sais en géochimie. Bien sûr, j'ai un petit peu progressé. Mais le premier exemple, le premier cours qu'il nous avait donné, c'était la géochimie de l'altération du mine à ciel ouvert qui était à Saint-Sébastien-des-Grefeuilles, donc toujours dans cette bordure sud des Cévennes. Mine de plomb-zinc, mine abandonnée depuis les années 60. Donc là, le cours, c'était dans les années 76-77. Et donc, on avait un cours sur toutes les réactions qui donnent cette production de protons et de sulfates que vous a présenté Georges Callas avec... Donc, petit à petit, les eaux qui circulent se chargent en acide sulfurique, donc deviennent acides. Et puis ici, un petit plan qui nous avait été fait par le professeur Faucher, qui montrait au fur et à mesure que l'on progressait en aval de la mine. Donc ici, on a les stériles. Ici, on a la zone de mine avec les petits ruisseaux. Au début, le pH des ruisseaux est de 3. Et puis ici, on arrive à un endroit où le pH descend à 1,8. Ici, on arrive sur le confluent entre ce petit ruisseau qui descend des mines et puis une petite rivière locale qui s'appelle la Mousse. En amont, le pH est de 8, donc on a des eaux proches de la neutralité. Et puis juste ici, au niveau du confluent, le pH descend à 3,5. Avec ici une zone de dépôt de ces fameuses boues rouges qui sont liées à la neutralisation progressive du pH qui va faire précipiter l'hydroxyde de fer, entraînant tout ou partie des métaux qui, en milieu acide, sont solubilisés. Et donc, ce bon professeur Faucher, avec un autre professeur que j'ai beaucoup apprécié, qui était le professeur Michard, allait prélever en mettant les bouteilles de blanc au frais, et surtout se garder de consommer l'eau des ruisseaux, mais c'était très bien pour refroidir la bouteille de blanc. Donc, il nous avait raconté ses campagnes de terrain, donc avait mesuré toutes les concentrations en métaux, qui étaient très élevées, bien sûr, à l'endroit où ils étaient acides, et qui diminuaient au fur et à mesure qu'on s'éloignait, que le système se neutralisait. Mais néanmoins, c'est une zone, cette zone de Saint-Sébastien-des-Grefeuilles, qui est très étroitement suivie encore, sur laquelle on a fait bien sûr un peu de réhabilitation, par Géodéris, donc qui est une structure, un groupement d'intérêt public qui associe le BRGM et l'INERIS, et qui sert d'expert pour évaluer les risques miniers et proposer des solutions de remédiation. Donc presque 40 ans après, la conscience qui était déjà assez importante dans le milieu scientifique que ces problèmes étaient des problèmes importants, il s'est fait des choses, mais c'est un héritage qui est encore loin d'être résorbé. Alors, ces installations à ciel ouvert, elles sont plus ou moins réhabilitées. Donc, on peut revégétaliser une mine à ciel ouvert. Ici, c'est l'exemple d'une mine à ciel ouvert aux USA. On voit encore les traces des différentes terrasses qui jalonnent l'exploitation. Ici, vous avez un terrain de golf qui a été fait sur les environs d'une mine dans le Montana, donc la mine d'Anaconda. Alors, il n'est pas très, très excitant, ce terrain de golf. Il n'est pas très, très vert. Bon, je ne sais pas si c'est une question de saison ou si c'est une question liée à la pousse de l'herbe qui est moins bonne sur ce genre de terrain. En effet, la réhabilitation, c'est quelque chose d'assez délicat. Vous pouvez avoir des remontées acides sur des stériles revégétalisés. Donc, quand de l'eau de surface s'infiltre dans ces tas de stériles, les réactions d'acidification continuent et ça peut remonter. Donc, ou alors des reprises très inégales de la végétation sur des zones réhabilitées parce que la végétation n'est pas toujours très tolérante à la contamination qui est présente sur ces zones. Néanmoins, on peut en tirer des informations. Et si on regarde un certain nombre d'espèces végétales qui colonisent ces stériles miniers ou un certain nombre de zones minières, on s'aperçoit que certaines espèces savent s'adapter. Et ces espèces sont parfois des plantes dites hyperaccumulatrices. Ici, par exemple, une plante qui s'appelle Alyssum cypriacum, qui doit être, je pense, une de la famille des giroflées, des moutardes, qui accumule du nickel dans ses parties végétatives et qui peut être utilisée, éventuellement, qui pourrait être utilisée pour récupérer du nickel à partir de ces tas de stériles. Il y a des essais en Nouvelle-Calédonie qui aussi commencent à exploiter ce genre de procédé bio, si j'ose dire, pour récupérer les métaux. D'autres exemples sur des zones de stériles à proximité de tailing ponds, c'est-à-dire des lagunes à côté de résidus miniers, on voit que certaines espèces sont capables d'accumuler spécifiquement du manganèse ou du zinc. TF, ici, c'est le facteur de translocation qui rapporte l'abondance dans les pousses végétales par rapport aux racines, et donc quand le végétal, la partie végétative, est capable de concentrer par rapport aux racines le métaux, on a un facteur dit de translocation. Alors après, on peut utiliser ces propriétés des végétaux soit pour remédier, c'est-à-dire dépolluer les sols, soit pour stabiliser les sols, et notamment par une colonisation par la végétation, éviter l'envol de poussière contaminée que Georges Callas a mentionné tout à l'heure. Donc toutes ces technologies de phytostabilisation, phytorémédiation ou même phytomine, phytomining, ont actuellement un certain renouveau d'intérêt. De là à dire que ce sera complètement économiquement rentable et qu'il y aura des grandes quantités de métaux extraits, je ne mettrai pas ma main à couper. Mais c'est quand même relativement vertueux de s'intéresser à ce genre de choses. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus des mines et de l'après-mine. Et vous rappeler, de manière un peu plus précise et plus détaillée, sur les mines, notamment les mines de fer ou les mines de charbon sur lesquelles nous travaillons encore actuellement, donc les différents impacts, à la fois qualitatifs et quantitatifs, alors sur l'eau, donc inondation en surface, pollution des aquifères, des risques d'instabilité en surface, donc subsidence, c'est-à-dire effondrement lent des terrains, collapsus, effondrement brutaux, des glissements aux chutes de blocs, et puis des risques liés à l'émission de gaz, provoquant éventuellement des risques d'asphyxie, d'intoxication, d'explosion ou d'irradiation interne, le radon. Un certain nombre de zones minières montrent des émanations de radon tout à fait importantes. Et bien sûr, les risques liés aux structures de surface qui peuvent être déstabilisés, notamment par les affaissements liés aux activités passées minières. Alors, un premier exemple sur les risques d'inondation en surface. Donc, c'est lié, en fait, à l'arrêt du pompage. Une mine, c'est une cavité dont on évacue l'eau en permanence. Et à partir du moment où on arrête le pompage, on arrête ce qu'on appelle l'exor, il va y avoir un ennoyage progressif de la mine, donc de toutes les cavités. Et on voit ici, par exemple, le niveau piézométrique, c'est-à-dire le niveau de l'eau. Tant qu'on pompe, le niveau de l'eau ici est en pointillé, on a rabattu la nappe. Et dès qu'on arrête de pomper, donc les galeries qui sont ici vont être ennoyées, le niveau va remonter à son niveau d'équilibre. Et il peut y avoir, à partir du moment où les rivières ici sont en dessous du niveau maximal ici, il peut y avoir de nouveau des inondations ou des problèmes liés globalement à l'hydrogéologie des sites. Donc les risques d'émission de gaz de mine en surface, donc à partir des cavités minières, si elles ne sont pas comblées, et de toute la fracturation qui est dans les roches qui sont au-dessus de ces, ici par exemple une couche de charbon, on peut voir remonter des gaz qui peuvent menacer éventuellement la population, surtout dans les caves ou dans des zones un petit peu confinées, si on n'a pas de, si on n'a pas de ventilation. Et ici, on voit dans une zone, je pense que c'est sur le territoire français, c'est le temps Lorraine, on est obligé dans certains endroits de mettre des évents pour pouvoir faire sortir ce gaz de mine de certains endroits. Et donc, il y a des zones dont il faut prendre garde aux éventuels effets. Et ça, ce sont encore des risques, des désagréments, même si on les gère à peu près, qui sont encore prégnants. Donc je ne reviens pas sur ces risques. Les problématiques de pollution des eaux et des sols, ce n'est pas simplement les mines à ciel ouvert ou les stériles de mines qui en génèrent, ça peut être aussi des remontées liées au fait qu'une mine, finalement, ça va créer une porosité importante, ça va créer des vides souterrains qui vont être remplis par l'eau. Si les eaux ont des vitesses de circulation plus importantes, on va pouvoir drainer de la contamination, qui peut être une contamination par des métaux, par des hydrocarbures, notamment si on a du charbon, avec différents types de vecteurs sensibles, et puis des cibles qui peuvent être des personnes, des animaux, voire la végétation. Donc ces mines peuvent générer des risques de pollution, même si elles sont profondes. Le deuxième grand type de désordre, c'est les désordres liés à l'effondrement. Donc sous les vides miniers, on a petit à petit un affaissement des terrains. Donc ici, vous avez un vide minier, des zones vont petit à petit, puisqu'ici on a un vide, petit à petit s'effondrer. Alors c'est des phénomènes qui sont relativement lents. Vous avez des réseaux de fractures qui vont petit à petit se déposer. Et puis ici, vous avez un beau champ de blé avec un trou important. Donc ça n'a pas été pris en Australie, ça a été pris dans l'est de la France. Avec, en fonction du type de déformation, notamment une zone en compression ici, des zones d'extension, des dégâts sur d'éventuelles superstructures, donc que ce soit des constructions ou des installations industrielles qui peuvent être affectées par ces effondrements. Donc ici, vous avez, dans le bassin ferrifère lorrain, des dégâts relativement importants qui ont été faits sur des constructions, donc dans des villages, le village d'Aubouë, le village de Moutier. Vous voyez sur les maisons les effets que ça peut avoir. Donc il y a des effets sur la dégradation des biens, la perte de valeur du patrimoine, mais ça peut aussi générer des accidents mortels. Alors on peut avoir des subsidences de type discontinu. Donc ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était des phénomènes relativement progressifs, mais ça peut être aussi des phénomènes brutaux, accidentels, où tout d'un coup, et là c'est la rupture de ce qu'on appelle le toit d'une cavité profonde qui se produit, et brutalement, le niveau peut descendre de 2, 3, 5, 10 mètres. Et c'est ce qu'on appelle les fontis. Et encore tout récemment, vous avez eu des problèmes de ce genre en région parisienne. La région parisienne, en fait, comme vous le savez, et même Paris, sont truffées de carrières, que ce soit des carrières pour la pierre à bâtir, des carrières de craie, des carrières de gypse, qui sont certes suivies et comblées dans beaucoup d'endroits, mais qui peuvent encore s'effondrer. Et ce qui se produit, donc, c'est ce qu'on appelle un fontis. Un fontis, c'est une zone d'effondrement localisée qui va petit à petit se propager vers le haut et qui peut déboucher. Ici, vous avez une coupe en fait, dans une zone qui a été excavée d'un fontis, et vous voyez ici ce qu'on appelle la cloche de fontis, qui petit à petit va se propager vers la surface et qui va déboucher pour faire ici le fontis lui-même. Donc ce mécanisme en fait, se propage vers le haut, et vous avez cette zone où vous avez cet effondrement brutal du sol lié à la propagation de ce fontis, donc à partir d'un trou, si vous voulez, d'une cavité dans le sous-sol. Et ça peut se propager sur des dizaines ou des centaines de mètres de hauteur. Alors ici, donc, mine de fer en France, vous avez une pauvre vache qui a été prise dans un trou comme ça, qui brutalement s'est ouverte sous ses pattes. Donc ça, c'est une image qui... Bon, je ne sais pas si la vache a survécu, mais ça peut être plus grave. Ici, le dernier décès lié à ce genre d'effondrement de fontis, c'est près de Carrières souterraines de Cray, donc dans le nord-ouest de la France. Le pauvre monsieur qui sortait de sa maison, eh bien, il est tombé au fond du trou, il s'est tué. Vous avez des types de fontis particuliers qui sont liés à des effondrements liés aux activités minières directes, donc notamment aux puits de mine. Et ça, c'est des accidents qui ont lieu dans l'est de la France, avec, vous voyez, des trous d'ampleur relativement importante qui se sont formés. Et puis, bon, c'est encore présent dans la mémoire des gens d'Île-de-France, un effondrement massif qui s'est produit à Clamart en 1961, donc ça fait un peu plus de 50 ans, qui a fait 21 victimes et puis de nombreux blessés, et bien sûr des dégâts très très importants sur le bâti, sur les constructions. Donc ça, c'est des carrières de craie, donc c'est des substances minérales extraites, mais toute la région parisienne est encore sujette à ce genre d'accident. L'INERIS les suit de très près, en lien avec le service des carrières de la ville de Paris pour Paris, mais on est sur un certain nombre de problématiques dans l'est de la région parisienne, du côté de Sevran, où un parc entier est truffé de fontis et de risques liés à ce genre d'effondrement, liés à des présences de carrières du gypse en dessous. Et même la voie de chemin de fer qui va vers l'est de la région parisienne nous pose des questions parce que ça secoue quand on passe en train dessus et c'est lié à des effondrements. Donc il y a au niveau des pouvoirs publics toute une gestion de cette après-mine. Donc l'expert qui travaille pour les pouvoirs publics, c'est le groupement d'intérêt public Géodéris, qui associe le BRGM et l'INERIS et qui assure l'expertise et l'appui auprès des services de l'État, que ce soit pour les aspects risques géotechniques, mais aussi les risques environnementaux en général. Avec toute une démarche, donc l'analyse des aléas, la gestion des risques et la mise en place de plans de prévention des risques miniers, mais aussi l'analyse des risques sur les structures existantes et de leur vulnérabilité. Soit le risque est considéré comme acceptable, soit on va devoir mettre en place une surveillance, et on verra quelques exemples de méthodes de surveillance, soit on va devoir traiter par remplissage et confortement, c'est le cas par exemple des carrières souterraines de la ville de Paris, soit on va devoir évacuer les zones si jamais le problème ne peut pas être traité. Alors bien sûr, ce genre d'activité nécessite de développer de la recherche, de développer de la science pour pouvoir prévoir et anticiper les risques liés à ces processus. Donc notamment ici, des méthodes de prévision de la subsidence, c'est-à-dire de l'évolution de l'effondrement progressif lié à certains vides miniers. Et donc à partir de l'analyse des structures, notamment dans différents types d'exploitation, que ce soit par chambre et piliers, où on laissait des piliers pour soutenir les terrains du dessus, ou bien les mines de charbon exploitées en longue taille, donc avec une méthode d'exploitation, on faisait des grandes chambres longitudinales. On a des modes de subsidence qui sont différents et pour lesquels notre institut, et bien sûr le CERCHAR qui précédait l'INERIS, ont acquis une capacité à prévoir et anticiper et estimer les aléas autour de zones minières délaissées. On a des codes maintenant qui nous permettent, à partir de la connaissance, heureusement qu'elle subsiste, de l'ensemble des ouvrages miniers qui sont repérés. Les mines ont gardé, bien sûr, leur plan d'exploitation, donc on a une idée de l'ensemble des cavités. Et à partir de la géographie, de la topographie, notamment en profondeur de ces cavités, on peut prévoir la subsidence et donc les mouvements qui vont petit à petit se produire au droit de ces vides miniers. Donc là, c'est des exemples d'études qui ont été menées en Lorraine, dans des zones donc, de mines de charbon, où l'exploitation s'est arrêtée en 1974 et pour lesquelles il a fallu suivre l'ensemble de l'évolution des sites. On a aussi mis au point des modèles numériques pour la prévision de l'évolution de Fonti, donc je ne vais pas vous détailler ceci, mais on est capable, à partir des propriétés des roches, d'une idée de l'état de contrainte, de savoir si oui ou non ces fameuses cloches de Fonti sont capables de se propager, de déboucher, pour donner des désordres importants en surface. Et donc notre institut a une grosse compétence, une grosse spécialisation dans ce qu'on appelle des méthodes 2D et 3D éléments distincts, donc c'est des méthodes de numérisation du sous-sol et de ses éléments. On y applique les lois de la mécanique des milieux continus, et on peut prévoir sur des zones bien définies l'évolution du système. Il va en résulter une cartographie des aléas, et sur une zone bien précise, on va pouvoir caractériser l'intensité de l'aléa, donc du risque si vous voulez, avec des zones d'aléas modérées et puis des zones d'aléas importants où il doit y avoir des mesures, soit des mesures conservatives, donc soit d'évacuation, soit de confortage ou confortement qui doivent être prises. Donc ces outils qui sont inscrits dans les plans de prévention des risques miniers sont des outils importants pour lesquels les préfets ou les DREAL sont à l'œuvre pour décider. Et donc, ces décisions publiques sont basées sur une expertise que leur apportent des instituts comme les nôtres. Donc, on a souvent besoin aussi de systèmes de surveillance, et en particulier toutes les régions minières de l'est de la France sont toujours actuellement surveillées, de même que le nord de la France. Donc, avec éventuellement activation de cellules de crise quand on voit des événements qui parfois se rapprochent et qui doivent permettre éventuellement de prendre une décision. Donc ces méthodes de surveillance, c'est là aussi de l'interférométrie radar satellitaire, telle que Georges l'avait évoqué pour les fameux effondrements dans les mines. Donc ici, c'est des mouvements qui sont peut-être moins importants, mais on arrive à cartographier l'évolution de la subsidence, de voir si jamais elle s'accélère par ces méthodes aéroportées, donc ce sont des outils puissants. Et l'autre domaine qui permet aussi de faire beaucoup de progrès, c'est la surveillance microsismique. Donc en fait, ces mouvements souterrains se caractérisent par des petits craquements. À partir du moment où les roches vont bouger, les failles vont jouer, on va enregistrer des petits séismes. Et l'INERIS, en lien avec un certain nombre d'équipes académiques, notamment les équipes de l'Institut de physique du Globe de Paris ici, ont développé des systèmes d'écoute microsismique qui permettent de localiser à la fois la fréquence et l'importance, et bien sûr l'endroit où se produisent ces petites crises sismiques. Donc on va pouvoir, à partir de réseaux microsismiques qui sont installés en surface ou bien éventuellement dans un petit forage, surveiller une zone et puis voir quand on a des crises sismiques qui commencent à apparaître, il faut éventuellement décider d'évacuer la population, et ça s'est fait à différentes reprises. Donc on arrive ici à localiser en trois dimensions l'endroit précis où se produisent ces petits craquements, et qui peuvent être parfois plus importants, bien sûr. Donc cette surveillance microsismique se fait sous l'impulsion de Géodéris, et l'INERIS en est un des acteurs, notamment les équipes d'autres instituts qui sont à Nancy, ont tout un centre qui sont 24 heures sur 24 à l'écoute de ce qui se passe dans le sous-sol, non seulement lorrain, mais de toutes les zones concernées par la prémine en France. Donc on a vu l'ensemble des désordres et désagréments liés à la prémine, à la mine, aux activités minières, mais l'idée de l'exposé qu'on avait discuté avec Georges Calas, c'était de voir, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce passé ou de ce passif pour éventuellement un jour reprendre une activité minière qui soit à peu près raisonnable. Et donc, est-ce que l'on peut imaginer la mine du futur, qui minimise les impacts environnementaux, les risques sanitaires, les risques sur les travailleurs? Et donc, cette mine du futur doit obéir à un certain nombre de caractéristiques que l'on va essayer de voir. Donc, une mine en profondeur doit être génératrice d'impacts les plus faibles possibles. On doit extraire que ce qui est valorisable et, si possible, laisser au fond ce qui ne l'est pas. Parce que si elle laisse les choses au fond, elles ne vont pas s'oxyder, elles ne vont pas être déstabilisées géochimiquement. Et puis, du point de vue mécanique, c'est intéressant parce que ça permet de recombler les vides que l'on a créés. Donc, ça a beaucoup de vertus. Ne pas sortir les stériles ou ce qui accompagne l'exploitation des ressources, mais de, si possible, le plus vite possible, les remettre au fond. Donc il faut bien sûr que les perturbations induites, notamment géochimiques ou mécaniques, soient minimales. Et certains politiques, notamment, et dans les pays anglo-saxons, et en particulier en Nouvelle-Zélande, le Premier ministre néo-zélandais, qui devait promouvoir un certain nombre de projets miniers dans des zones un petit peu sensibles du point de vue environnemental, a parlé de la notion de mine chirurgicale, surgical mining. On va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Donc, qu'en est-il ? Qu'est-ce que c'est que cette mine du futur ? On va voir quelques projets et quelques réalisations existantes, et puis je vais vous parler d'un projet européen dans lequel notre institut est engagé, qui a pour objet, justement, de réfléchir à la mine du futur. Alors, qu'est-ce que c'est, cette surgical mining ? Je suis désolé pour vous montrer des images un petit peu laides sur la chirurgie, mais vous avez les chirurgies classiques. Ici, vous avez une chirurgie à cœur ouvert, donc on ouvre, et puis ben, on doit faire ce qu'on doit faire, mais en ouvrant. La chirurgie classique, comme vous le savez, ou comme malheureusement pour certains d'entre vous, vous avez pu l'expérimenter, y compris moi-même, c'est pas sans impact. Donc, les suites post-opératoires sont parfois très handicapantes, ça met du temps à guérir, à se reconstruire. Et la chirurgie a fait énormément de progrès depuis 20 ou 30 ans avec ce qu'on appelle la chirurgie non-invasive, assistée par imagerie. Donc, on va essayer d'introduire des sondes, éventuellement des petits systèmes téléopérés qui vont aller faire ce qu'ils doivent faire en étant guidés par de l'imagerie. Et donc, j'ai fait un parallèle, alors encore une fois, il n'est pas forcément de très bon goût, je vous prie de m'en excuser, mais entre une mine à ciel ouvert et puis des mines un petit peu novatrices qui vont, à partir d'un forage ou d'un ensemble de forages, aller récupérer le minerai et, si possible, en faisant un premier tri. Et je dirais qu'une partie des efforts des compagnies minières, c'est à la fois de renseigner l'imagerie, c'est-à-dire essayer de savoir très précisément où sont les ressources, où sont les zones minéralisées à forte concentration, de manière à éviter d'aller embarquer énormément de terrains sans intérêt, de les excaver. Donc déjà, essayer de repérer avec une très grande précision, et puis après, si possible, les exploiter à distance. Alors qu'est-ce que c'est que ce borehole mining concept ? Donc ici, c'est un exemple qui commence à être développé aux États-Unis, où en fait, par un forage de relativement gros diamètre, on injectait du fluide sous forte pression, c'est un petit peu comme un karcher très puissant, qui va déliter la zone de minerai. On va repomper ensuite une suspension de ce minerai qui est mis en tout petits fragments, l'extraire, ici récupérer la partie utile et recycler l'eau. Donc ça se fait avec, si possible, un minimum de consommation d'eau. Après, voir sur le terrain comment ça fonctionne, c'est parfois un peu plus délicat. Donc ça a été proposé et ce sera peut-être mis en place, notamment pour des exploitations d'uranium. Ici, vous avez un site qui est dans l'Utah. Dans le sud de l'Utah, on a des concentrations d'uranium relativement importantes qui ont été exploitées par le passé, notamment à ciel ouvert, avec des impacts. Pour ceux qui sont allés du côté de Moab, on en voit encore des traces assez difficiles à supporter. Mais on peut envisager d'exploiter des gisements d'uranium par ces techniques en évitant la création de grandes carrières et de mines à ciel ouvert. Il y a d'autres techniques un peu voisines qui commencent à être mises en œuvre, notamment l'un des plus gros gisements d'uranium du monde, qui est le gisement de Cigar Lake, dans le nord du Saskatchewan, au Canada, qui est un gisement en fait, qui est tellement concentré que c'est quand même pas très sympathique d'y envoyer des gens au fond. L'oxyde d'uranium est présent sur des épaisseurs de 12 mètres. Donc 12 mètres d'uranite massive, donc le risque radon, le risque même d'irradiation ou de contamination des personnels est trop important. Et donc, les compagnies minières ont mis au point des méthodes d'exploration, d'exploitation automatisée. Donc, bulk freezing, on va faire d'abord une congélation du gisement en injectant des réfrigérants au fond. Comme en plus, en hiver, il fait assez froid, ça peut être relativement simple. Et des techniques dites de jet boring, donc toujours avec des fluides très haute pression, on va fragmenter le minerai, on va le faire remonter pour l'exploiter. Donc congélation, fragmentation, puis évacuation du minerai par géo de pression. D'autres méthodes sont utilisées, ce qu'on appelle l'ISR, c'est l'abréviation anglaise, donc in situ recovery. On va en fait injecter de l'eau à laquelle on a additionné de l'acide sulfurique dans un réseau de forage. Ici, vous avez un exemple d'un tel site au Kazakhstan. On va récupérer le fluide qui va dissoudre le minerai. On va extraire l'uranium, notamment à l'aide de résine échangeuse d'ions. Et puis ensuite, on va réinjecter ce mélange, bien sûr, en contrôlant à l'extérieur que cet acide sulfurique, alors même s'il est relativement dilué, ne va pas trop se balader à l'extérieur du site. Donc c'est opérationnel au Kazakhstan, il y a à peu près 4 à 5 000 tonnes d'uranium par an qui sont produites à l'aide de ces technologies d'injection in situ et de récupération. Et puis en Mongolie, des zones en test qui permettront d'exploiter ces gisements d'uranium de Mongolie. Donc ces méthodes utilisent l'injection de fluide aqueux. Donc la maîtrise des risques et la protection des opérateurs sont grandement améliorées, notamment pour les gisements d'uranium à faible teneur, mais c'est aussi envisageable pour d'autres gisements métalliques. L'impact environnemental à court terme et aussi à long terme reste quand même un point sensible, lié notamment à l'injection de fluides. L'injection de fluides, qui sont généralement relativement oxydés, peut perturber quand même la géochimie des systèmes et avoir un impact à long terme. Alors bien sûr, on ne va pas aller tirer de l'eau potable juste à l'endroit où on a fait ce genre d'opération. Mais sur le long terme, il y a toujours des questions de contamination qui vont subsister. Par ailleurs, leur viabilité économique n'est assurée que pour certains types de gisements, notamment des gisements superficiels ou à profondeur relativement faible. Ce genre d'exploitation pour des choses qui se feront à 1000 mètres ou 1500 mètres de profondeur, c'est le domaine encore un peu de la science-fiction. Donc après, il y a des idées. Est-ce qu'on peut à terme développer une extraction in situ à sec ? Qui pourrait permettre de limiter considérablement les impacts environnementaux liés à l'injection de fluides. C'est des axes de développement pour la recherche qui sont encore étudiés. Maintenant, dans les quelques minutes qui me restent, je vais partager avec vous ce projet européen qui s'appelle Itomine, donc auquel l'Ineris participe, et qui a pour ambition la contribution à des méthodes intelligentes pour les mines profondes, dans un objectif de développement durable. Donc j'ai pris quelques transparents à notre collègue Horst Heini, qui coordonne ce projet européen. Donc c'est un consortium qui regroupe des grandes compagnies minières européennes, comme Boliden, qui est une compagnie suédoise, comme KGHM qui doit être KGHM, qui est une compagnie polonaise, leader l'une et l'autre sur les métaux soit ferreux, soit non ferreux en Europe. Un certain nombre d'équipes qui travaillent plutôt sur la partie ingénierie, Caterpillar, donc, qui va travailler sur les engins d'excavation nouvelle génération, enfin tout un tas à la fois de compagnies minières, de compagnies de services, des gens qui font de la géophysique. Des instituts comme le nôtre ou bien comme le GIG, qui est un peu l'homologue de l'INERIS en Pologne, donc sont dans ce projet. Donc 10 nationalités, les forces vives de l'industrie minière européenne et qui exploitent des mines profondes, des partenaires scientifiques dans les universités, des instituts, et des équipementiers qui font autorité au niveau européen et mondial. Donc quelle est la vision de ce projet ? Donc une mine avec un impact le plus bas possible ou nul, plus une mine invisible, qui soit en profondeur, qui soit, le plus loin possible de tout ce qui peut la perturber, c'est les ingrédients de cette future mine intelligente profonde. Donc l'idée d'une mine profonde, c'est relativement important dans le concept. Avec tout un tas d'objectifs, de sous-objectifs, le développement de méthodes innovantes et de technologies pour pouvoir mener une activité minière à grande profondeur, donc c'est des profondeurs de l'ordre de 1500-2000 mètres, là on est quand même à l'abri de l'oxygène de l'air, il faut l'amener pour pouvoir survivre, donc les questions de perturbations géochimiques seront beaucoup moins sensibles. Des machines autonomes et hautement sélectives pour extraire le minerai, donc toute la technique non seulement de creusement, mais d'extraction du minerai avec si possible un tri juste en sortie de la machine, des techniques de capteurs, de senseurs, donc des architectures de mines différentes, des concepts innovants pour les flux de minerais, l'ensemble des flux qui vont et qui viennent de la mine profonde, une connaissance améliorée de la mécanique des roches, de la surveillance du sous-sol, et puis des méthodes un petit peu innovantes, notamment pour le remplissage, au fur et à mesure que l'on va exploiter le minerai, de remplir les galeries de manière à limiter les risques d'effondrement ultérieur. Et bien sûr, toutes les questions sur l'impact sanitaire et environnemental de ces activités minières profondes. Donc ici, un petit schéma. Donc des machines qui vont pouvoir excaver les zones enrichies, donc récupérer le minerai, et puis, si possible, pouvoir trier le plus finement possible ce qui va être conservé et remonté en surface, puisque ça aura de la valeur, et puis le stérile, directement en sortie de machine, le laisser au fond et petit à petit s'en servir pour remplir les cavités que l'on aura creusées. Donc l'idée d'une sorte de petite usine souterraine associée à la machine est en train de faire son chemin. Il y a de très gros efforts, à la fois conceptuels mais aussi d'ingénierie, autour de ces nouvelles techniques d'exploitation, donc qui vont s'efforcer de ne faire sortir en surface que ce qui sera utile. Donc de pouvoir combler les vides. Alors dans les mines profondes, il y a un enjeu particulièrement important, c'est les aspects liés à la géomécanique des terrains. Parce qu'en fait, plus on est profond, plus les contraintes vont se faire sentir sur le milieu. Et à grande profondeur, si jamais on excave, donc pour faire des galeries et exploiter le minerai, la relaxation soudaine des contraintes peut provoquer ce qu'on appelle des rock bursts, donc l'explosion de roches, qui sont des événements très violents et qui peuvent générer des événements sismiques de magnitude 4 à 5. Donc une énergie qui est emmagasinée et qui peut être libérée très brutalement et qui peut faire des dégâts très importants et bien sûr menacer la sécurité des ouvrages et des personnes qui y travaillent. Ici, ce phénomène de rock burst dans une mine profonde a complètement refermé un tunnel et localement ici, il y avait un événement sismique de magnitude 3,4 qui a été enregistré. Donc ce sont des événements qui sont relativement bien connus dans ces mines profondes d'Afrique du Sud que Georges a évoquées, mais qui sont vraiment à surveiller et il faut pouvoir prévoir l'évolution des états de contrainte et suivre les événements sismiques. Et c'est ce que fait notre institut dans ce projet européen. Donc mettre en place des systèmes de mesures, je ne vais pas vous montrer le détail, mais par surcarottage, on va faire des mesures de contrainte et de déformation. On va faire des réseaux qui vont permettre de suivre au cours du temps l'évolution de ces états de contrainte et de déformation. Donc ça, c'est pour la partie déformation-contrainte. Et puis, des systèmes de mesure de réseau, donc de mesure microsismique, qui vont permettre de contrôler, de monitorer l'évolution de ces structures et prévenir les phénomènes de rock burst, c'est-à-dire d'explosion, si vous voulez, souterraine. De ces mines. Donc on a actuellement des équipes qui sont en Suède, dans une mine profonde chez Boliden, et qui installent ce réseau de surveillance microsismique, qui est du même type qu'est le réseau de surveillance microsismique qui sont utilisés dans l'après-mine pour la surveillance des mines de fer de Lorraine. Donc si on résume un petit peu les défis scientifiques et technologiques associés à cette mine profonde, donc ciblé grâce au progrès de la reconnaissance et de l'imagerie 3D, donc des méthodes, notamment des méthodes géophysiques, permettent maintenant, avec une résolution inégalée, d'aller, sans forcément faire de forage, déterminer où se trouvent les zones les plus intéressantes, où les minerais sont les plus concentrés. Donc ce sont soit des méthodes qui vont détecter des anomalies des propriétés électriques, soit des anomalies de résistivité, c'est la contraposée, soit des anomalies magnétiques, soit par exemple ici, une méthode de radar qui a été développée en fond de forage. Donc on peut installer ici un système qui va enregistrer des images radar en fond de forage et à partir de réflexion, on va pouvoir ici détecter par exemple la présence de filons. Donc ça, c'est une image qui a été obtenue il y a 5 ou 6 ans sur une mine de diamants. Donc il faut bien sûr que ça ait de la valeur pour développer des méthodes aussi sophistiquées. Donc une mine de diamants dans les territoires du Nord-Est au Canada, où on a pu repérer des réflexions par ces systèmes de radar en fond de forage de filons de kimberlite qui portent les diamants. Donc avec ces outils géophysiques, on va pouvoir cibler au plus près les endroits intéressants à exploiter et donc limiter énormément la quantité de déblais que l'on aura évacué. Donc ça va permettre de faire des économies de coûts, mais aussi des économies sur les vides créés et bien sûr les déchets générés. Donc actuellement, il y a beaucoup d'efforts pour les méthodes de reconnaissance géophysique, la modélisation 3D des structures géologiques, parce qu'il faut aussi comprendre la géologie de ces gisements. Et donc, maintenant, on peut plier, déplier dans tous les sens les terrains, projeter l'arrivée des fluides, faire des simulations, reconstituant en fait l'histoire du gisement, comme aide à la prospection. On peut aussi utiliser la chimie des eaux profondes, quand il y en a, pour essayer de reconstituer les endroits sur lesquels les eaux profondes sont passées. Et bien sûr, c'est le développement de toute une technologie pour automatiser au maximum ces mines. Donc, on n'extrait que ce qui est valorisable. Les stériles restent au fond, remplissent les vides créés, sont bien évidemment à l'abri de l'oxygène et, si possible, à l'abri de l'invasion de l'eau. Et donc, tous les problèmes qu'on a vus sur les mines à ciel ouvert ou les stériles disparaissent avec ces concepts de mines durables, qui sont certes extrêmement intéressantes, mais malheureusement, pas forcément applicable à tous les types de minerais et toutes les situations géologiques ou métallogéniques que l'on peut rencontrer. Donc voilà un petit panorama de ce que l'on peut faire dans le domaine. Merci pour votre attention.